Et ceux qui disent Léo Ferré, anarchiste, sont mal vus, les anarchistes. C'est les mecs les plus formidables qui soient, les anarchistes. Parce que c'est l'amour. Hein, tu comprends? C'est l'amour.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Cinquante berges dans les flancs. Eh ouais. Bon anniversaire, amour, anarchie.
La Radio Libertaire, 89.
À mes oiseaux piaillant debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutil et leurs fourreaux fleuris de trous. À mes compains du pain rassis, à mes frangins de l'entreprise. À ceux qui gerçaient leurs chemises au givre des pernaux minuit, à l'araignée, la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à Bec d'Azur, du pif content qui crachait côté de Sancerre sur les midnight à moitié vert, chez un bistre de ses clients, aux spécialistes du chkoumoum qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Blondin et Clown, au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nèfles, à ceux pour qui deux sous de trèfle, ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller, maintenant que je suis paré. Et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, vois la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe, progressivement quand tu maxes, tu belles à tout va la chanson. Tu n'achètes plus que du vent. Encore que la nuit venue, y a ta cavale dans la rue qui est nuit en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi et toi, et une éponge de vin sûr. Ton Beaujolais qui fait le mur, et ta pépé qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé, 50 berges dans les flancs, et tes chiens qui mordent dedans le poterie de l'amitié. Un poète, ça sent des pieds, on lave pas la poésie. Ça se défenestre et ça crie aux gens perdus. Des mots fériés, des mots, oui, des mots comme le nouveau monde. Des mots venus de l'autre côté de la rive. Des mots tranquilles comme mon chien qui dort. Des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi et chargés de mettre des perruques aux vieilles bouffiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystères et non de péchés, de tabous, de vertus, de carnaval romain, des draps cousus dans le salas et dans l'objet de la policière voyance ou voyeurie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Rita Hayward, Monsieur l'abbé Bébé Friquetti Friqueta. Et nous ferons des prières inversées. Et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne des mots des querelles du qu'en diront-ils. Mais du je fais quand même mes cochoncetés en toute quiétude sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies alors que ses enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané. alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes, I am an immense provocateur. Je vous l'ai dit, des armes et des mots, c'est pareil. Ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure. C'est râper vos trucs et manigances, vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est râpé, messieurs de la romance. Nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous les chiennes. Puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches comme des mots noirs et blancs. Noirs comme la terreur que vous assumerez, blanc comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens et les chiens, quand ils sont dans la compagnie, ils se dérangent, ils se décoliérisent. Et pose leur os comme on pose sa cigarette quand on a quelque chose d'urgent à faire même. Et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien.
L'année 2020 se termine avec ces deux émissions qui nous restent à passer ensemble. Et cette année 2020 marque les 50 ans, le cinquantenaire d'un album, d'un double album important dans l'œuvre de Léo et dont le titre est tout à fait emblématique pour nous autres anarchistes. Amour, anarchie. Un double album important dans mon cœur et puis dans le cœur de nombreuses et de nombreux parmi ceux et celles qui aiment Léo. Et pour en parler de manière un peu plus précise, avec peut-être quelques informations qui pourront nous être apportées sur cet album qui compte, j'ai convié pour ces deux dernières émissions de l'année Alaric Perrollier du site La Mémoire et la Mer, des éditions d'ailleurs La Mémoire et la Mer. Bonsoir Alaric.
Bonsoir Davou.
Comment vas-tu ?
Très bien, écoute.
Je suis très content de finir l'année avec toi. Nous ne l'avions pas tout à fait commencé ensemble, mais nous nous sommes vus au début de l'année 2020 pour parler de l'album Le Guinche et plus largement de l'année 55 et 56 chez Léo. On est cette fois-ci réunis pour parler d'une année importante, 1970 aussi, du fait de l'apparition de cet album et puis d'une période un peu charnière dans la vie de Léo. On va parler d'amour anarchie ce soir, et enfin ce soir et lors de l'émission prochaine. Et je voudrais commencer cet entretien au cours duquel je vais te demander de nous apporter quelques informations, peut-être pour enrichir notre connaissance au sujet de cet album qui est important. Avant de te poser des questions sur le contexte et sur cet album en particulier, je voudrais te demander, en tant qu'individu, qu'est-ce que représente pour toi cet album « Amour, anarchie » ?
Tu me poses une colle parce que, comme toi... je n'ai pas connu l'ère du vinyle du temps de sa splendeur et donc je n'ai pas découvert les albums de Léo dans leur intégrité originale. J'ai connu la première intégrale Barclay, dite Le Pavé, qui était orchestrée par Richard Marsan et qui était l'ancien directeur artistique de Léo chez Barclay. et son assistante Thérèse Chasguet. Et le principe de cette intégrale était qu'en fait, les albums, le contenu des albums était souvent très éclaté. Voilà, il y avait plusieurs albums qui se chevauchaient sur un seul et même CD. C'était le début, enfin, c'était l'ère du CD dans sa première phase, on va dire. Et c'est-à-dire que comme il y avait beaucoup plus de place que sur les vinyles, les producteurs de musique avaient tendance à vouloir valoriser commercialement leur nouveau support en disant, voilà, on fait plus de 60 minutes de musique. Et donc, bon, les albums originaux et donc éventuellement le parcours d'écoute qui avait été pensé par l'artiste n'était plus respecté. Et il y avait aussi, c'était des visuels qui étaient différents. Donc, si tu veux, c'était plus des collections de chansons qu'après, mentalement, on pouvait essayer de recréer dans leur organisation d'origine, sachant qu'il y avait encore peu de choses. Moi, j'ai écouté ça... ça me ramène à mes jeunes années. Je saurais pas te dire exactement la chronologie. C'était hier, n'est-ce pas? Le temps file vite en un claquement de doigts. Non, je ne saurais pas te dire exactement quelle a été la... Je me souviens par quoi je suis rentré dans Léo, c'était les chansons d'Aragon. Et ensuite, je pense que j'ai fait effectivement d'abord la période Barclay, et ensuite un peu, j'ai dû faire la période Toscane, et ensuite les années Odéon, hein, grosso modo. Enfin, j'ai pris le train en marche, il y a eu des rééditions dans les années 2000, et là je redécouvrais donc certains albums des années Odéon. Qui est pareil, était sorti en intégrale chez Sony dans les années 90 et qui tous les contenus étaient éclatés. Tout ça a été remis en ordre en 2003 par une intégrale qui était pilotée par Thérèse Chasguet, où pour la première fois on retrouvait les visuels d'origine et les tracklists ou les listes de titres en français originaux. À peu de choses près. Et donc là, je pense que ça date peut-être de cette intégrale-là où j'ai vraiment pu appréhender Amour Anarchie dans sa totalité, sachant que Amour Anarchie était publié sous sa couverture de double album, parce que c'est un album qui a la spécificité d'être sorti en deux volumes, puis en double album. Donc, il ne représente pas, si tu veux, en tant qu'album, dans ma découverte de Léo, une surprise particulière, si tu veux, les surprises, j'allais de surprise en surprise au fil des chansons, en fait. Et donc après, c'est peut-être a posteriori, en commençant à réfléchir aux choses, à l'œuvre de Léo, à sa trajectoire d'artiste, que j'ai reconstruit mentalement une image de chaque album, si tu veux. Amour Anarchie ne représente pas quelque chose de plus singulier pour moi que, par exemple, les chansons d'Aragon où il n'y a plus rien.
D'accord. Et dans l'image que tu as reconstruite de cet album, est-ce qu'il y a justement un caractère qui ressort? Ou pas particulièrement, d'ailleurs. Hein. C'est pas obligatoire.
Oui, attends, je réfléchis à ta question. Comment je pourrais le caractériser en quelques mots, finalement? Quelle impression générale j'en retire? Je trouve que c'est un album qui est combatif. Combatif, mais sans exaspération. Ce que pourrait être, par exemple, des albums ultérieurs, comme Il n'y a plus rien, où il y a de la noirceur, que j'adore. Hein, mais Amour Anarchie, c'est un album qui fouette les sangs, quoi, qui je trouve, oui, qui est plein d'énergie positive, puisqu'il est question d'amour et d'anarchie, que c'est un geste artistique fort. Bon, c'est un album que j'aime beaucoup, hein, mais... Oui, voilà, je dirais c'est ça. On est porté... Dans tous les albums de Léo, il y a une énergie, parce qu'évidemment, il met une énergie dans l'interprétation, une énergie vocale. Mais là, effectivement, c'est un album qu'on pourrait considérer comme étant un peu un album concept, sachant que le concept est très lâche, très large, quoi, qui est que justement c'est un cycle de chansons de révolte, on va dire, articulé autour de l'anarchie, sachant que son idée de l'anarchie est très liée à l'amour, en fait. C'est une seule et même chose pour lui-même, et c'est pour ça que dans le graphisme, en fait, le A d'amour est celui d'anarchie aussi. Il partage la même initiale. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez marquant, quoi.
Cet album sort, enfin ce double album hein, précisément, sort en 1970.
Oui.
Je voudrais que tu nous parles un petit peu de où en est Léo à ce moment-là, aussi bien dans sa vie que dans son œuvre.
Alors Léo, Je pense que tous les gens qui s'intéressent à Léo connaissent un peu les grandes césures, les grands mouvements de sa vie. Et effectivement, la césure de mai 68, enfin en l'occurrence de mars 68, qui est son 68 à lui, il disait « j'ai fait mon 68 à moi en mars », qui est donc sa rupture sentimentale avec sa deuxième femme Madeleine, quitte le domicile conjugal et il ne revient pas et il décide d'arrêter cette relation qui ne fonctionnait plus depuis un certain temps. Hein. Il a beaucoup fait semblant, il s'est réfugié, je pense, un peu dans la création, mais ça n'allait plus. Et bon, on connaît l'histoire qui attire beaucoup les médias parce qu'elle est pittoresque et donc ils aiment le côté un petit peu, je sais pas, scandaleux ou hors norme, on va dire, de la vie de château avec les animaux, les chimpanzés, Pépé qui a été tué d'une balle dans le front par un chasseur du Lot. Le drame, quoi, le drame. Bon. Donc Léo, à la suite de ce drame personnel, part et du coup, il mène un peu une vie un peu errante avec sa garde rapprochée, c'est-à-dire son pianiste aveugle Paul Castagnier et son ami depuis les années 50, fin des années 50, qui s'appelle Maurice Froh, qui est un type un libertaire pur et dur, qui a fait la guerre d'Indochine, voilà. Pas un lettré comme Léo, moins intello que Léo, mais voilà, un type avec des idées et des convictions. Après 68, en 68, Léo ne sort aucun disque. Il commence un tout petit peu à faire des tournées, des choses, et donc avec sa garde rapprochée, qui est donc son pianiste, accompagnateur, aveugle, Popol, et Maurice Froh, qui vient auprès de lui et qui vient occuper la place vacante laissée par Madeleine, qui était un petit peu la manageuse de Léo, qui gérait les deals avec les patrons de salles, de théâtre, voilà. Donc il est un peu l'homme à tout faire, et un peu garde du corps après, bon ça c'est un peu ultérieurement quand il y aura des échauffourées à la sortie des concerts, et c'est le secrétaire, c'est l'homme à tout faire, voilà. Donc, en même temps, parallèlement, chez Barclay, arrive une vieille connaissance d'Eddie Barclay, qui s'appelle Richard Marsan, qui était si je suis méchant, je vais dire un artiste raté, un imitateur un peu des cabarets, qui connaissait toute une petite bande et qui connaissait Aznavour et qui donc, je sais plus exactement parce que malheureusement je n'ai pas révisé avant de venir, tu m'en excuseras d'avouer.
Tu es tout excusé.
Mais je ne sais plus quand il rentre chez Barclay exactement, mais quelques années avant, et au départ il s'occupe donc d'Aznavour qu'il connaît très bien, et c'est le directeur artistique d'Aznavour, et le directeur artistique de chez Barclay, c'est des jeux de chaises musicales, hein, tu sais, Michel Fernandez, Rick récupère la branche américaine de Barclay qui se développe alors à tout va, et part s'occuper de ça, il est à New York, et donc en fait si tu veux, Léo n'ayant plus de directeur artistique, on donne le job à Marsan. Marsan est présent au moment où Léo, début 69, enregistre son album Blanc, où il y a cet extra, Les Anarchistes, c'est le premier album que Léo enregistre après 68, donc, mais qui n'est pas encore, qui n'enregistre par rapport à Amour Anarchie, reste sur la lancée des années 60, je dirais que c'est le summum des années 60, c'est d'un grand classicisme, il y a une ou deux chansons qui font référence à 68, il y a Comme une fille et L'été 68, qui sont des petites chansons courtes, qui sont pas forcément des grandes chansons de Léo, mais donc on a l'impression qu'il a pris acte de ce qui se passe, puisque donc en mai 68 se passent les événements, hein. Et Léo à ce moment-là, lui, il a suivi ça d'un peu loin, il était le premier étonné, il était ravi aussi, puisqu'en fait, donc, il avait quitté son domicile conjugal et à dans son domaine, la Perdrigal, ils avaient des aides parce qu'ils avaient beaucoup d'animaux et tout ça. Donc il y avait deux personnes, deux femmes qui les aidaient. Denise, qui connaissait depuis l'époque de Pershing, et puis Marie-Christine, qui était une jeune femme, fille d'exilés espagnols, républicains, qui habitait dans le coin, qui avait atterri dans le coin. Et il y avait du travail au château, et elle est venue travailler, s'occuper de certains des chimpanzés, entre autres choses. Et il se trouve que Léo est tombé amoureux de Marie-Christine et qu'ils sont partis ensemble. Elle était à peine majeure. Et donc, il a mené une vie un peu nomade. Il avait un pied-à-terre à Paris. Et puis, ils sont allés en Ardèche, entre autres choses. En 69, il enregistre cet album, qui est une sorte de manière de tourner un peu la page. Il y a des chansons qui sont adressées à Madeleine, tout ça. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que quand les événements de mai 68 arrivent, le fameux 10 mai qui est le premier soir des barricades dans le quartier latin. Léo enregistre, enfin, il n'enregistre pas, mais il fait un concert à la Mutualité, donc qui était une salle plutôt de meeting politique, plutôt à gauche, on va dire, même s'il y a eu différentes couleurs politiques. Mais c'est quand même plutôt une salle, on va dire, de gens bien à gauche. Et donc, il y avait la Mutu, il y avait la Fédération anarchiste, ou le groupe Louise Michel, animé par Maurice Joyeux, qui faisait régulièrement des galas. Et Léo venait depuis des années gratuitement. Enfin, la recette était pour les copains anarchs, quoi. Et donc là, il fait ce concert-là qui a été capté de manière un peu pirate et dont Universal a sorti les bandes grâce à Mathieu Ferré il y a 2-3 ans. C'était en 2018, je crois. Bah, c'était pour l'anniversaire de 68.
Oui, voilà.
Voilà, ils avaient fait une petite compile avec les morceaux politiques de Léo. Et c'est inédit pour faire que les fans rachètent, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Mais qui était super. Et où on voit Léo qui chante et qui n'est pas du tout dans une humeur insurrectionnelle. Alors oui, ils ont voté. Il reprend ses chansons de 67, là, de cet album de 67, où on dit qu'il y a une sorte de préscience de 68. Enfin, en tout cas, on comprend pourquoi il y a une convergence avec la jeunesse derrière, parce que, voilà, il, de toute façon, ouais, Léo était assez en phase avec ses idées, avec les idées de la jeunesse de 68, contestataire de 68. Mais le reste, c'est quand même beaucoup. Il chante Spleen, il chante La Mort, il chante Pépé. Quand il chante Les Anarchistes, c'est une très belle version, mais c'est pas du tout la version martiale du studio. C'est une version qui est funèbre, quoi. Mm. C'est funèbre, c'est les éternels vaincus, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et c'est ce qui fait la beauté de la chanson, je trouve, mais... il n'est pas combatif, là, pour le coup. On ne se dit pas, waouh, c'est pas Bobino 69 en mode. Ouais. Le public est calme, d'ailleurs. Mmh. Bon, c'est autre chose. Donc, ce qui se passe, c'est que, pour faire vite, Léo se sépare de Madeleine. Il va faire plusieurs petites tournées, mais rien de très. C'est un peu. C'est comme s'il redémarrait sa carrière. Parce qu'en fait, du coup, il va faire quelques petites scènes ici et là. En 69, il va refaire du cabaret. Et ça, c'est pas anodin. Il fait du cabaret rue des Saints-Pères, dans un cabaret qui s'appelle le Don Camillo, qui est juste en face de chez la rue où habite Gainsbourg, qui vient l'écouter des fois. Quand il vient juste pour écouter Pépé plusieurs soirs de suite. Ouais. Parce que, évidemment, Gainsbourg. Léo parle de Gainsbourg dans cette chanson et Gainsbourg adorait. Il était content d'être dans une chanson de Léo, quoi. Et c'est symbolique dans le sens où Léo a démarré dans les cabarets et là, c'est comme s'il y avait un reboot, un redémarrage, ouais. Et il commençait une nouvelle carrière. Et il enregistre cet album début 69 et il enchaîne sur Bobino. Et là, effectivement, il y a quelque chose. Il y a le mot, c'est passé dans la jeunesse, je ne sais pas. Il a été identifié. Il y a un truc. Il y a eu. En janvier-février, c'est capté par Richard Marsan. Le premier geste vraiment professionnel vis-à-vis de Léo de Richard Marsan, c'est de dire bon, là, il se passe quelque chose à Bobino, on enregistre. Il se rend compte qu'il y a un truc qui se passe avec la jeunesse, et c'est un succès monstre, quoi. C'est-à-dire que l'audience de Léo va se démultiplier, et encore plus avec le succès estival, qui va être le tube de l'été de cet extra.
D'accord.
Qui va passer en discothèque, tout ça. Donc ça va pas mal matraquer. Ça, j'en parle parce que ça va avoir une incidence très précise sur pourquoi Amour Anarchie est comme il est. Donc, Léo réussit, ça redémarre, ça redécolle un peu à la verticale, surtout avec ce public, cette porte, comme il disait, la porte 68 a ouvert une porte sur la jeunesse pour moi. Et donc, il va commencer à faire des tournées dans des grandes villes étudiantes, beaucoup plus que ce qu'il faisait dans les années 60. Et donc, il a sorti cet album, l'album blanc, l'album qu'on appelle l'été 68, en janvier 69. Bobino va sortir très vite après, il va se vendre comme des petits pains. Ensuite, il va refaire, alors ça c'est un peu étonnant, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il va réenregistrer le corpus de départ, ses 12 premières chansons, qu'il avait enregistrées pour Le Chant du Monde en 1950, à quoi il tenait beaucoup.
Avec de nouvelles orchestrations.
Avec de nouvelles orchestrations, avec Defy, toujours avec Defy, son orchestrateur. Je passe dessus vite, mais alors, du coup rien ne laisse présager l'arrivée d'Amour Anarchie, si tu veux. Là on reste dans quelque chose de, on pourrait se dire bon, il nous fait du revival, il est dans la nostalgie de, ou ça participe de cette espèce de besoin psychologique de l'artiste, comme le fait de repasser par un cabaret, tout ça, de faire un reboot, tu vois, je passe à autre chose, mais je relance, c'est un nouveau commencement.
Dans tes yeux, le mal qui se traîne comme une idée de crucifix. Dans tes mains, le mal qui se promène avec un vieux rêve rougi.
Déjà, tu veux me dire quoi là?
Le mal qui se coule
Viric Club, la radio sur la radio libertaire, voilà.
Dans tes yeux, le mal qui se traîne comme une idée de crucifix. Dans tes mains, le mal qui se promène avec un vieux rêve rougi. Dans ton cœur, le mal qui se saoule de quelques minutes d'oubli. Et puis, dans l'ombre, le bien qui coule dans la rivière de la nuit. Dans tes yeux, le mal qui se lave dans un coin où je ne vais pas. Dans tes mains, le mal qui se sauve et que tu files entre tes doigts. Dans ton cœur, le mal que consume ce feu qui n'en finit jamais. Et puis dans l'ombre, le bien qui écume comme des chevaux des marées. Dans tes yeux, le mal qui s'habille pour me sortir dans ton pays. Dans tes mains, le mal qui grappille les grappes lourdes de la vie. Dans ton cœur, le mal qui s'achève dans un sanglot et dans un cri. Lorsque dans l'ombre, le bien se lève comme le jour après.
Je ne sais pas si c'est un mal qui s'habille ou si ça bille. Tu vois ce que je veux dire, bille, voilà. Tu veux que je l'en fasse ?
Arrive à Amour Anarchie. Alors, Amour Anarchie marque une rupture.
C'est bien ça. Bon.
Enfin, c'est la rupture, non, c'est la continuité, ça reste Léo, puisqu'on va voir qu'il y a des textes...
Avec Alaric Perrollier, à propos d'Amour Anarchie, les 50 ans.
Il y a certains textes qui sont très neufs, par contre, comme Le Chien. Mais c'est une rupture parce qu'il y a une sorte de frontalité dans l'érotisme qu'il n'y avait pas avant. On sent que mai 68 est passé et que là, il s'autorise quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Et aussi au niveau de ce qu'il appelait le style de l'invective, et dont il y a des signes avant-coureurs dans les années 60 à travers différents titres, dont on pourra parler, si tu veux, si on parle du chien, qui là se trouve, ça explose. C'est-à-dire que là, c'est un peu le Ferré nouveau est arrivé. Ce qu'on pouvait pas vraiment dire de Bobino 69, ni de l'album Blanc l'été 68, où il y avait une forme de classicisme. Léo est un classique. Alors là, en plus, ça se double musicalement d'une sorte d'étrangeté pour qui connaît Léo. C'est une étrangeté a posteriori, parce que je pense que les fans à l'époque prenaient les choses comme elles venaient et voyaient que Léo changeait, il y avait ça, comment dire, c'était protéiforme, et que d'un album à l'autre, stylistiquement, ça changeait, musicalement. Mais je dis que c'est une étrangeté, parce que nous, qui avons du recul, en tout cas moi, qui est un peu qui connais mon petit Léo, c'est un classique fondamentalement, et le fait qu'il embrasse un peu comme ça la pop musique, tu vois, un idiome un peu rock, il fait un pas de côté par rapport à ses habitudes, ou à sa zone de confort, on va dire. Donc ça, c'est surprenant aussi. Donc voilà, Amour Anarchie, il se jette dans le grand bain, et là, quelque part, je dirais, c'est l'album où il rejoint l'époque, où il embrasse son époque. Alors que peut-être, dans une certaine mesure, quand il était dans le Lot avec sa femme, et qu'il faisait des albums poètes, c'était une manière d'être un peu sur le rocher de cristal dont parle Baudelaire, si tu veux, en voyant l'époque un peu, de manière un peu dégoûtée, un peu lointaine. Et là, ça bouge d'un seul coup dans la société, et Léo arrive et descend dans l'arène, dans la cité.
Et bouge en même temps qu'elle.
Là, ouais. Il y a une volonté de se... Et il est porté, évidemment, par cette jeunesse dont il a l'oreille.
Bien sûr. Premier volume qui va sortir au mois de mai, si j'ai bien lu ce qui est indiqué sur le site leo-ferré.com, et le deuxième volume au mois de novembre. On peut peut-être... Peut-être que tu peux nous apporter quelques éléments sur la manière dont se constitue cet album.
Alors, d'avoue, je vais tout de suite te reprendre. Tu me pardonneras.
Oui, non, bah, je t'en prie, au contraire.
En fait, le secret de la chose, c'est que ça n'est pas un double album. Ceci n'est pas une pipe.
Tu veux dire que lorsqu'il sort...
Quand il sort en mai, il n'y a pas de volume 2 prévu. Si tu veux, Léo a sorti, on va dire, 2 double albums précédemment. C'est rare, les double albums. C'est très rare dans l'industrie de la musique. Et notamment dans la chanson. Parce qu'il faut du souffle. Il faut que l'artiste, il envoie, qu'il ait du contenu. Et dans la chanson française, et ben souvent, les albums, les LP, les longs plays, les 33 tours, 30 cm, bon, bah c'est pour quand un artiste a réussi, a sorti plusieurs EP, hein, des extended play, des petits maxi 45 tours, 4 titres. Il en sort plusieurs, t'en sors 3, 3 fois 4, 12, t'as tes 12 titres, à raison de 3 minutes par chanson, 40 minutes par face, t'as un album. C'est comme ça souvent que ça se passe.
D'accord.
Bon, Léo, il ne fonctionne pas comme ça. C'est un type qui, très vite, a pensé, enfin dès le départ, à penser album. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends son œuvre. Ça reste à prouver dans le détail ce que je m'attacherai à faire si j'arrive à aboutir ben souhaite, mon livre sur la question.
Ah, tu as vendu la mèche tout seul, hein. Je sais pas.
Non, mais bon, je peux en parler comme ça. Enfin bon, on verra. Je travaille à quelque chose là-dessus. Mais oui, donc Amour Anarchie, non.
Double album.
Léo a sorti 2 double albums avant.
Lesquels? Attends, là, je t'avoue que lorsque tu me dis ça...
Verlaine et Rimbaud.
Oui, d'accord, ouais.
Et Léo Ferré chante Baudelaire.
Baudelaire, oui,
d'accord. On a tendance à l'oublier parce que tout tient sur un seul CD maintenant.
Oui, absolument,
maintenant.
C'est vrai.
Mais, indubitablement, le Verlaine et Rimbaud, c'est pensé comme un double... Enfin, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire un double album. Mais il s'est dit, voilà, j'ai 24 poésies, ça tient sur 4 faces. Voilà. Et Baudelaire lui signe le chèque. Pardon.
Barclay.
C'est quoi ce lapsus? Barclay lui signe le chèque. C'est le Verlaine et Rimbaud, c'est pas le sujet, mais c'est quand même le premier double album studio, à ma connaissance, dans les musiques populaires. Hein. C'est-à-dire qu'on dit toujours Blonde on Blonde de Bob Dylan, on dit toujours Absolutely... non, pas Absolutely Free, mais... j'ai un trou. Le premier album de Frank Zappa. Si tu veux, c'est-à-dire que, en fait, dans la connaissance, un petit peu la vulgate, la connaissance qu'on a des musiques populaires, on est très coloré dans nos connaissances par le prisme du rock anglo-saxon, parce que les anglo-saxons ont très pris au sérieux, plutôt que nous, les Français, leur histoire, l'histoire de leur musique populaire. Et donc, il y a eu des exégètes, il y a eu des gens qui se sont penchés, et donc il y a eu du récit et de la mise en forme de l'histoire du rock, par exemple. Et le rock, sa spécificité, c'est quand même qu'à la base, c'était un mouvement de libération. C'était pas un mouvement, mais c'est-à-dire que c'était une dynamique qui faisait que les gens qui pratiquaient cet idiome voulaient casser les formats convenus. Et donc, forcément, il y avait des artistes qui avaient du souffle et qui se sont dit, on va faire des... Pourquoi faire un album? On peut en faire deux. Et donc, c'était un peu nouveau. Et après, ça s'est beaucoup... L'ère de l'album, c'est vraiment, on va dire, fin des années 60, les années 70 et début des années 80. Il y a eu beaucoup de tentatives plus élaborées de faire des albums concept, des doubles albums. Plein de groupes ont fait ça, si tu veux. Donc c'est quelque chose qui nous paraît banal. Aujourd'hui, sortir des doubles CD, c'est quand même relativement rare. Mais sur le double album, donc si tu veux, il y avait des doubles albums avant, mais c'était des captations live. Ou des albums, bon, évidemment les albums de classiques, parfois les œuvres sont trop longues, donc ça sortait en coffret de 4 CD. Mais je parle d'œuvres où, en fait, si tu veux, il y a des petites unités sécables qui sont les chansons, et donc ça peut très bien tenir sur un seul disque. Il n'y a pas de raison d'avoir plusieurs disques, tu vois. Donc ça, c'était beaucoup plus rare. Et donc que ce soit un geste artistique voulu par l'artiste de sortir un double album, ben, j'ai l'impression que Léo, le premier, pour ce qui est du studio, parce qu'il y a des captations live, comme je te disais, en 64 avec Verlaine et Rimbaud.
D'accord.
Bon, alors ça, comme les Américains, ils connaissent pas Léo Ferré, ils en parlent pas, donc les Français savent pas, parce qu'ils connaissent pas Léo Ferré, ils connaissent que ce que disent les gars de l'Empire, tu vois.
Oui.
Bon, le deuxième coup est un peu plus foireux. Enfin, le premier n'est pas du tout, parce que Léo est en contrôle artistique de ce qu'il fait, mais le Baudelaire, il va sortir en 2 volumes. C'est-à-dire que Léo n'est plus à la manœuvre quand il sort l'album. C'est parce qu'à cause du procès, tout ça. Bon, on reviendra sur l'histoire de cet album un jour si tu veux.
Ouais,
ça
sort
en 2 volumes séparés. Et il y a une sorte de coffret qu'il est possible d'obtenir pour faire rentrer les 2 volumes en séparé.
D'accord.
Parce que Barclay n'est pas très chaud pour sortir un double album, parce que si tu le vends 2 fois le prix, ça ne se vend pas. Si tu le vends, c'est 2 disques, ça coûte plus cher à fabriquer. Tu le vends 1 fois 1 000 le prix. C'est des histoires de sous, hein, si tu veux, de petite cuisine mercantile. C'est pas une question de... Et donc, après, pourquoi Amour Anarchie, l'autre spécificité de Léo, c'est qu'en temps normal, il sait qu'il doit produire 12 chansons par an dans son contrat. Donc, il sait qu'il va rentrer en studio. Le studio, il se met en accord avec son directeur artistique, selon ses dates par rapport aux tournées, aux concerts, à quel moment il pourrait louer le studio. Et souvent, Léo bossait un peu au dernier. Il bossait tout le temps, mais il mettait le dernier coup de rein final, si tu veux, en vue des séances studio, parce qu'il devait fournir les partitions à Jean-Michel Defaille, qui bossait très très vite. Et ensuite, ils se retrouvaient en studio, ils enregistraient les parties musique, et le soir, Léo enregistrait ses voix. Et il faisait ça très vite, hein, souvent en 2-3 jours, c'est fini, quoi. Pour 12 titres. Tu vois, donc les mecs qui passent 6 mois en studio pour faire 9 titres, on a envie de dire, ok les gars, bon, peut-être aussi que effectivement Léo et Defaille et cette époque-là n'abordaient pas le studio comme l'ont fait les Beatles les premiers, c'est-à-dire comme un outil créatif, un outil dans lequel on prend du temps et on recherche des choses ensemble. C'est-à-dire qu'ils avaient une conception plus traditionnelle de la musique, c'est-à-dire on la compose, on l'arrange, on l'orchestre. Ensuite, on a des partitions, on a des musiciens qui sont super bons lecteurs, qui arrivent, qui jouent directement le truc en le lisant. On fait une ou deux répètes, on enregistre, et comme ils sont très bons, il n'y a pas de fausses notes, il y a très peu de reprises à faire, et c'est dans la boîte. Et on fait 4 titres en une séance de 3 heures. Tu vois. Donc ça, c'est un peu une approche industrielle de la musique. C'est ce que les gens qui faisaient du rock ont un peu cassé, parce qu'ils étaient plus dans une démarche... personnel, d'imposer leur propre rythme, le studio comme un outil de recherche. En tout cas, les Beatles, c'était vraiment le cas. Mmh. Tu vois, et ça a fait rupture. Donc, Léo était dans cette optique-là. Et quand il arrivait en studio, il avait prévu d'arriver avec 12 chansons, ce serait son album. Alors après, peut-être qu'il n'avait pas... je pense que parfois, il crée un ordre de chansons, si tu veux. Il communiquait ça à son... Parce qu'il y a des albums où sur la couverture, il y a les titres des chansons. Ah oui, et en fait, oui. Ça ne correspond pas à l'ordre des chansons finales, en fait. Et je pense que Léo, ensuite, a changé pour trouver un autre ordre, mais qu'il avait dû communiquer pour le service graphique à son directeur artistique un ordre de chansons qu'il n'a pas tenu, en fait. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas le même ordre entre ce qui est indiqué sur la pochette et le... Et donc là, Amour Anarchie, ça ne se passe pas comme ça. Il n'arrive pas avec... parce qu'en fait, il devait minuter les chansons, comme on a des documents écrits de Léo où il minute les chansons après pour savoir comment il va les mettre sur quelle face.
Tu... Bien sûr.
Parce qu'il est tenu à ne pas dépasser 40 minutes, 20 minutes sur chaque face. Donc Amour Anarchie, il travaille toujours avec Jean-Michel Defaille, c'est le dernier album qu'ils vont faire. Il commence les sessions en janvier. Il va enregistrer, à la différence de tous ses autres albums, il va enregistrer des chansons, puis il va continuer à enregistrer des nouvelles chansons, espacer tout jusqu'au début mai. Là, aussi, la spécificité, c'est qu'il commence à sortir des formats... Il y a une chanson qui fait 7 minutes, c'est Le Chien, et une autre qui en fait 11 et quelques, ou voire 12, c'est le psaume 151. Ouais. Des morceaux de 5 minutes, Poète vos papiers, elle est assez longue. La mémoire et la mer aussi, ça fait 5 minutes. La lettre, ça doit faire 4-5 minutes. Donc, on est plus sur du petit format. Quand il faisait les poètes, ça durait... Souvent, c'était très court, hein. C'était punk, en fait. Ça faisait 2 minutes. Bon. Et donc là, c'est des formats, des chansons plus longues. Donc, il se retrouve avec tout un ensemble de chansons, mais plus que ce qu'il faut pour un album. Alors pourquoi, Davou, selon toi ?
Bah écoute, parce qu'il avait envie, parce que ça débordait de son calepin, parce que...
Je pense qu'il est venu, en fait, il est venu dans le studio et il avait des nouvelles choses à proposer à chaque fois. Mmh. Mais pour moi, la façon dont j'ai compris quand j'ai regardé l'historique des sessions d'enregistrement, je pense que à ce moment-là, Richard Marsan prend un petit peu les rênes du travail en studio, ce qu'il n'avait pas trop. Il était un peu dans ses petits souliers, il est arrivé en cours de route, il a laissé faire, il a accompagné, je pense, l'album 69,
oui.
L'album blanc, l'été 68. Et puis, après, il a décidé d'enregistrer l'album, comment dirais-je, à Bobino, l'album live à Bobino, qui est très fastueux dans sa présentation. Il y a beaucoup de photos, c'est là que Patrick Ullman arrive dans la boucle. Il y a plein de textes de Léo. Je pense que ça s'est fait en bonne intelligence avec Léo et que, comme le dit Patrick Ullman, Léo écoutait ce que disait Richard Marsan. Ils étaient devenus amis, quoi. Et là, sur Amour Anarchie, pour moi, c'est un album qui a des défauts. on en parlera après, mais qui porte vraiment la marque de Marsan. Et je pense qu'avec Marsan, ils se sont dit on va reproduire le succès de cet extra.
Ah ouais, tu crois ?
Je pense que c'est à la fois Marsan qui servait les intérêts de son patron en disant « faut matraquer, faut qu'on ait un gros succès, il a intérêt à ce qu'il y ait du succès ». Et Léo, je pense que ça ne lui déplaisait pas de faire un succès, Mais je pense aussi qu'il cherchait quelque chose dont il s'est rendu compte qu'il l'avait juste effleuré avec cet extra. C'est-à-dire que quand il a fait cet extra, il travaillait avec DeFi, et il lui avait fait écouter l'arrangement de Night in White Satin des Moody Blues. Vraiment, il lui a dit, tu écoutes ça et tu me fais un truc comme ça. On va faire un truc bien putassier pour séduire le grand public et tout. Et je pense qu'il a voulu pousser ça plus loin, en étant plus spécifiquement rock. Enfin, pop. On disait pop à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Dire qu'on était pop, ça veut dire qu'on était rock. Hein. Parce que la pop, aujourd'hui, c'est plus doux que le rock dur. Mais on appelait ça les pop. Ceux qui faisaient de cette musique-là, on les appelait les pop. Et donc, Léo veut partir là-dedans. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fil des sessions, il enregistre à plusieurs reprises des versions de La Zanana. Et que La Zanana, c'est sans doute ce cheval de bataille qu'il cherche pour faire cet extra bis, ou okay. deux, le retour de la vengeance, si tu veux. Et que, en fait, ça marche pas. Ils trouvent pas, quoi. Ils ont ni Marsan, ni Defy, ni Ferré. Ils trouvent le truc. Le rock, c'est pas leur truc. Donc, ça marche pas comme ça. Hein. Ils essayent plusieurs choses. Et effectivement, Defy m'avait expliqué, l'a expliqué récemment au micro de Benoît Duteurtre sur, je sais plus quoi, France Musique.
Une autre radio.
Je ne sais plus si c'est à cette occasion qu'il l'a redit, mais enfin, il l'a dit en plusieurs occasions, que c'est la seule fois où Léo n'a pas été convaincu par un arrangement qu'il lui proposait. Sinon, ça a toujours bien marché. Il y avait des petites modifications mineures à faire, mais que je pense que Léo, parfois, était précis dans ses directives et à d'autres moments, lui déléguait vachement les choses. Mmh. Et que ça lui convenait parce qu'ils avaient le même tempérament musical. Hein, c'est des classiques, ils aiment Ravel tous les deux. Il a une super écriture des corps et des cordes de faille. Ça manque parfois un petit peu peut-être de personnalité, mais il se met toujours au service de la mélodie et c'est jamais inapproprié, quoi. Alors il y en a qui sont plus ou moins réussis, plus ou moins inventifs dans ses arrangements, mais là il a fait un arrangement qui n'a pas été retenu par Léo. Cet arrangement a été retrouvé et publié en 2013 dans l'intégrale L'Indigné.
D'accord.
Et cet arrangement est jazz. En fait, on se rend compte que je pense comprendre que pourquoi Léo l'a rejeté. Il est très bien. En fait, moi, je le trouve très bien. Mais il ne va pas dans le sens de ce que veut Léo. Et en fin de compte, tous les arrangements faits par Defy, on se rend compte que, en fait, Léo cherche à faire des chansons pop. Plus ou moins. Il y a des chansons très classiques. La mémoire à la mer, c'est très classique. Petite, ouais. C'est très classique. Mais Poète vos papiers, il y a une basse qui est pop. La Zanana, on va en reparler, c'est spécifique. Mais par exemple, Psaume 151, la batterie, ça joue, quoi. Donc là, la rythmique est plus mise à l'avant-plan parce que je pense que c'est comme ça que Defy interprète la pop, quoi. Il se dit, bon, alors, OK, il y a plus une présence rythmique. La section rythmique est plus présente dans l'arrangement. Ça joue plus, ça groove un peu plus. Sauf que lui, ce qu'il sait faire, c'est du jazz. Il sait pas faire de la pop. Donc en fait, l'arrangement de La Zanana, le premier arrangement qu'on a découvert a posteriori, est très très élégant. Mais toujours est-il que ça a été repoussé et que moi, donc mon hypothèse, c'est que si tu veux, Amour Anarchie a la physionomie qu'il a, c'est-à-dire qu'il a enregistré plein de titres parce que bah ils font un premier essai sur La Zanana et quand ça pourrait être bouclé. Léo n'est pas satisfait et Marsan non plus. Et donc, ils vont réessayer de trouver une solution. Et à chaque fois, ils retournent en studio et ils réenregistrent d'autres titres à la faveur. Ils ne vont pas faire que La Zanana. Ouais. Léo a d'autres trucs prêts. Donc, ils continuent de faire bosser Defy. Et... Donc, il y a eu ensuite une version de La Zanana qui n'a pas été acceptée. Ensuite, il y a eu une version dont on a retrouvé l'enregistrement, qui est celle que j'avais passée chez toi lors de notre nuit Léo Ferré.
Ouais,
qui est donc une première version avec Zou, pas totalement au complet. Et avec un musicien de studio qui joue du saxophone dessus. Donc en fait, si tu veux, et celle-là, moi personnellement, elle a été révélée en 2013, je la trouve mieux que la version finale, dont je ne suis pas un fanatique absolu. Et sur la version finale, enfin, il y a, je pense, le son que voulait Léo, mais qu'il a eu du mal à exprimer tout de suite, à décider tout de suite. C'est tout simplement qu'il voulait de la guitare électrique.
Ouais, voilà.
De la vraie grosse guitare électrique avec un solo, ça joue et...
La Zanana,
C'est dans la voix et dans le geste, la zenana. C'est zenana avec un zeste, la zenana. Quant à la jupe à râle bonbon, la zenana. C'est pas compliqué, mais c'est bon. La zenana, que ça vous mate ou que ça vous touche, la zenana. C'est l'eau courante au fond de la bouche, la zenana. Et quand ça vous refile une galoche, la zenana, du joug complet dans ton sinoche. La zenana, c'est dans la taille et dans le faste, la zenana. C'est zenana et puis c'est baste, la zenana. Quand t'as chômé devant son cul, la zenana. Les chômeurs, ça court pas les rues. La zenana, que ça se traîne ou que ça se trimballe, la zenana. Au septième ciel, tu fais tes mal, la zenana. Et tu lui redemandes un ticket, la zenana. Pour t'emballer au bout du quai. La zenana, c'est du jasmin sous une guenille, la zenana. Du cous humain ou un espadrille, la zenana. C'est une prison dans sa Bastille, la zenana. C'est du vison en haut des quilles. La zenana. Quand ça t'emballe au bout de la rue, la zenana. Ça te fait marron et ça te lâche plus, la zenana. Quand ça vient lire au fond du page, la zenana. T'as même plus le temps de tourner les pages, la zenana. C'est des baisers, c'est des caresses, la zenana. À défoncer le tiroir caisse, la zenana. C'est de la panthère qu'on te serre en tasse, la zenana. Faut laisser faire et puis ça passe. La zenana, c'est comme un ange qu'aurait pas d'elle, la zenana. C'est un jouet au bout d'une ficelle, la zenana. C'est un chagrin qui va tout nu, la zenana. C'est un cri perdu dans la rue, la zenana. C'est dans la voix et dans le geste, la zenana. C'est zenana avec un zeste, la zenana. Quant à la jupe à râle bonbon, la zenana. C'est pas que c'est gagné, mais c'est bon.
Et donc, il y a assez de matériel qui est accumulé dans toutes ces sessions studio.
Alary Perrollier nous parle de l'album Amour Anarchie dont nous fêtons les 50 ans.
Léo est sommé par sa maison de disques, enfin, amicalement, Richard.
Mais disons
lui
qu'il y a,
dit...
quand même assez, il y a quand même une base intéressante pour se dire, bah tiens, pourquoi on n'en ferait pas un volume 2?
Eh bien, il y a peut-être, 5 titres.
Ouais,
déjà,
okay,
en surplus, okay. En surplus. Donc, il lui demande, je sais qu'il lui demande 4 titres. Et il va y avoir une session en octobre où ces 4 titres vont être enregistrés. Alors, comme je n'ai pas révisé avant de venir, je ne me souviens plus des titres.
Oui,
je sais que parmi eux, il y a Écoute-moi.
Ouais.
Et il y a Avec le temps. Alors, Avec le temps, c'est la fameuse histoire qui est que Léo disait il disait que la maison de disque n'avait pas mis la chanson dedans, que c'était. Ils le disaient sur un ton, ils connaissent pas leur métier, quoi. C'est, puisque après, ça a été un immense succès. Bon, je pense que c'est un peu de mauvaise foi de Léo, parce que au début, à d'autres moments sur scène, il disait qu'en fait, il voulait pas, et puis que comme il était pressé par le temps, il avait cette chanson-là, il a donné ça, mais qu'en fait, il se disait, bon, c'est trop personnel. Je pense que Marsan s'est rendu compte quand même de l'homogénéité du corpus là, qu'il avait, et qu'avec le temps, c'était un peu en dehors de ça. Parce que, si tu veux, toutes les chansons d'amour qui sont dans Amour Anarchie sont plutôt positives.
Oh, la mémoire et la mer est positive.
Ouais, c'est mélancolique, mais c'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est mélancolique. Mais c'est suffisamment poétique et imprécis pour que, en fait, la beauté l'emporte, tu vois. On se dise pas, on soit pas plombé. D'accord. Avec le temps, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus direct, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et en fait, ça plombe l'atmosphère. C'est pas Amour Anarchie, quoi. Et je pense que ça se justifiait de ce point de vue-là, et que Marsan, au nom de la cohérence du corpus de chansons, cohérence conceptuelle, si tu veux, s'est dit non, non, ça, on le met pas. Voilà. C'était pas pour, comment dire, embêter Léo ou quoi. Hein. C'était qu'il y a eu un geste éditorial qui a été décidé par Marsan, et que bah, Léo a dit ok, ok, Richard. Bon, voilà. Donc après, peut-être qu'il recrée un peu l'histoire en disant. Suite au succès, parce que je pense que Léo ne pouvait pas prévoir que ça aurait un tel succès.
Bien sûr.
Parce qu'ils se sont donné donc beaucoup. La petite histoire qui est marrante là-dedans, c'est qu'en fait, ils se sont donné beaucoup de mal sur la Zanana, que ça aurait été un peu laborieux. C'est, moi, au final, c'est pas une chanson que je trouve extraordinaire. Bon, c'est mon avis personnel, mais je préfère cet extra, par exemple. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il y a plus de légèreté dans cet extra, qu'il y a plus d'insistance dans la Zanana. C'est un peu moins. C'est plus forcé, quoi. C'est plus fabriqué. Mais l'écriture est textuelle est bien dans la Zanana. Mais bon, musicalement, je sais pas. Et qu'en fait, finalement, l'énorme succès qu'il cherchait, c'est avec la chanson qui aurait été disqualifiée et qui n'est pas du tout. Pas vraiment dans l'air du temps, qui est intemporel, qui est triste, qui est une chanson d'amour. Bon, voilà.
Pour finir sur Avec le temps, elle va sortir quand alors cette chanson ?
Elle sort en 71, en 45 tours, avec en phase B, L'Adieu, qui est un court poème de Guillaume Apollinaire, parce qu'à ce moment-là, Léo a commencé un petit peu à se. Donc il a sorti les chansons d'Aragon en 61, c'est un corpus qu'il a bossé à partir de 58, l'hiver 58. Et ensuite, il a fait donc Verlaine Rimbaud en 64. Un nouveau Baudelaire en 67, et je pense qu'en 69, 70, il s'est repenché un petit peu sur Apollinaire. Enfin, il s'est repenché. Il avait fait la chanson du Mal-aimé et le pont Mirabeau. Et là, il va chercher un peu du matériau à musiquer. Et comme il n'a pas fait un album dédié à des poésies courtes d'Apollinaire, parce que le Mal-aimé, c'est un peu à part. De part, c'est pour des chanteurs lyriques. Il ne l'a pas encore enregistré pour sa voix seule à lui. C'est un album de Léo Ferré, mais où Ferré est absent vocalement. Donc, c'est un peu différent. Donc, je pense qu'il a mis en musique quelques poésies d'Apollinaire à ce moment-là, dont Marie Zibil qui chante, du coup, pour la première fois sur la scène de Bobino en 69. Et L'Adieu, c'est à peu près concomitant. Sauf que il n'enregistre pas Marie Zibil, il enregistre L'Adieu lors des sessions d'Amour Anarchie, qui est aussi une chanson mélancolique, d'au revoir amoureux. Très belle chanson, l'arrangement est super, je trouve d'ailleurs.
Ouais, tout à fait.
Mais ça cadre pas trop avec le reste. Et du coup, ça va bien avec le temps. Et donc, en fait, c'est sorti, donc on peut dire à la sauvette, je suis pas sûr que ce soit sorti à la sauvette, mais bon, c'est sorti sur un petit support qui n'est pas le support noble de l'album, 30 cm. Et suite au succès monstrueux d'Avec le temps, mais direct, hein, tout de suite, et puis la profession, les pairs, tout de suite se disent c'est un classique, quoi. Ça a tout de suite été. Marsan, avec Léo, vont la mettre sur un album. Et ce sera, ils vont pas faire une réédition d'Amour Anarchie en mettant Avec le temps. Ils vont faire un album de compilation qui s'appelle Les chansons Avec le temps, les chansons d'amour de Léo Ferré.
Ah oui, d'accord.
Et qui va reprendre plusieurs chansons d'amour. C'est à cette occasion que Léo va réenregistrer La vie d'artiste en version parlée pour cet album, qui va changer le texte, il va réenregistrer la Gauloise, ça va devenir la Gitane, il va y avoir Avec le temps qui va être un peu la chanson phare dans un album 30 cm, c'est un peu le repêchage. Et les éditions modernes de Amour Anarchie réintègrent les chansons qui appartenaient aux sessions d'Amour Anarchie mais qui n'ont pas figuré historiquement sur cet album, c'est-à-dire L'Adieu et Avec le temps. À partir de 2003, depuis c'est sur ces albums-là. D'accord. Un bonus.
Vous qui avez la réputation d'être le contestataire, que pouvez-vous dire maintenant que la contestation est devenue une sorte de lieu commun ?
Non, pourquoi vous dites ça? Parce que d'abord, c'est le mot contestataire, la contestation, c'est le mot qui... Les bourgeois emploient ce mot-là.
Voilà, tout le temps.
Avec oui. ironie, n'est-ce pas? Non, la contestation, c'est le coup de poing de... Hein? C'est pas mal. Mais moi, je ne suis pas le spécialiste de la contestation. Moi, je suis comme ça, et depuis 20 ans, je chante, je dis ce que je pense. Alors que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui disent ce qu'ils pensent, alors je suis devenu le spécialiste de la contestation, c'est faux. Je pense que la poésie, enfin... C'est tenté que la chanson poétique, si vous voulez, doit se battre. Sinon, c'est pas la peine. Hein? La poésie doit être dans la rue, comme je dis. C'est important, parce que ça fait penser les gens, des fois qui n'ont pas le temps de penser, ou pas les moyens.
Glaireuse à souhait, avec des fils dans l'amidon, se demandant s'il tombera du mur ou non, le crachat au soleil. C'est dire, sonneil vitreux de borgne où la haine croupit, brillant d'un jaune vert pâle et mal nourri. Sous la canicule chavira, d'où viens-tu, pèlerin gélatineux et froid? De quelle gorge obscure as-tu quitté l'emploi pour te marier à cette pierre d'un gosier mal vissé ou d'un épituiteux d'un palais distingué d'un poumon besogneux ou d'une lampe? Avant que de finir au plat, sur ce granit, étais-tu préposé au cathare, au prurite, ou bien à résoudre une quinte? Es-tu le doute du rêveur, l'orgueil du fat, la solution d'un douloureux échec et mat, ou l'exutoire des farniens? Agacé par l'insecte au ventre crevant d'œufs, décoloré, suintant, le crachat comateux sur le trottoir, enfin, des bons doigts. Tandis qu'agonisant sous des pieds indistincts, à l'aise, enfin chez lui, il me dit l'air hautain, je suis la conscience du monde.
C'est la fin du Ferré Club. À la semaine prochaine.